Seigneur Dieu, quelqu'un est venu me voir juste avant ce cours-là pour me dire qu'il priait que le Saint-Esprit puisse parler au travers de moi, Seigneur. Et Seigneur, c'est ma prière aussi. Je ne veux pas que ce soit juste mes mots, je ne veux pas que ce soit juste mes idées, Seigneur. Je ne veux pas que ce soit juste abstrait pour les gens qui m'écoutent, mais je veux que ce soit ton Saint-Esprit qui parle. Et Seigneur, on va justement parler de la troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit ce matin. Et souvent, on a peu de choses à dire, on connaît peu de choses sur cette personne. Mais Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu puisses ouvrir notre entendement, ouvrir notre cœur afin qu'on puisse mieux te connaître. Parce que le livre même le dit, connaître Dieu, c'est notre plus grande joie. C'est notre plus grande fin. On ne veut pas rien d'autre. Même Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, Seigneur, ouvre-nous les yeux afin qu'on puisse apprendre à te connaître. Et c'est dans ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen. Alors, il paraît que la semaine passée, vous n'avez pas terminé le chapitre 5, Dieu incarné. Alors, je vais simplement finir ce chapitre-là. À la suite, on va sauter au chapitre 6, qui est il sera mon témoin sur le Saint-Esprit. Première phrase de la section où est-ce qu'on était rendu, c'est « Que faut-il penser dans l'incarnation? » Alors là, je crois qu'au niveau du chapitre 5, j'étais vraiment rendu à la partie la plus pratique. Le fait de savoir que Jésus-Christ était Dieu le Fils et qu'il s'est incarné en homme, à quoi est-ce que ça nous sert maintenant aujourd'hui? Pour savoir ça, pour être capable de trouver un aspect pratique. Parce que souvent, c'est ce qu'on veut, on aime. C'est le fun, la connaissance. On a eu des théologiens qui se sont battus pendant 300 ans pour essayer de déterminer, bon, Jésus-Christ, il est quoi? Est-ce un genre de demi-dieu? Est-ce un genre de un petit peu homme avec toute la divinité? Est-ce que c'est un genre d'homme qui est devenu de plus en plus Dieu? T'sais, il y a eu différentes théories de toutes sortes. Puis finalement, ils sont arrivés. Merci Seigneur, avec la vraie vérité biblique, que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais à quoi ça change? Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Qu'est-ce que ça fait? Pour vraiment comprendre l'application pratique de cette vérité-là des Écritures, il faut ne jamais limiter ni l'humanité de Jésus, ni sa divinité. Et là, c'est là que je voudrais vous poser ma première question et je veux avoir des réponses, si vous avez des idées, tout ça. À votre avis, quel est le plus grand danger de limiter l'humanité de Jésus-Christ et de faire de Jésus plus Dieu qu'un homme? Est-ce que la question est claire? Si, admettons, on limite l'humanité de Jésus et qu'on en fait plus Dieu, mais un peu moins homme, c'est quoi le danger, vous pensez, de changer, de déformer un peu Jésus-Christ comme ça? Je vais vous donner un petit indice de départ. Avez-vous déjà entendu l'expression, tu sais, vous voyez, quelqu'un essaie de vous encourager, vous parle de ce que Jésus a fait, tu sais, non, mais tu sais, Jésus a fait ça. Puis là, la personne vous réplique, ben oui, c'est normal, c'est parce que c'est Jésus, tu sais, c'est Dieu, c'est normal, tu sais. Avez-vous déjà entendu cette expression-là ou l'avez-vous déjà utilisée dans votre vie? Dire genre, ben ouais, pour Jésus, c'est normal, il a résisté à toutes les tentations, c'était Dieu, tu sais. Ben ouais, c'est normal que Jésus ait bien répondu aux pharisiens, tu sais, c'était Dieu, tu sais. Fait que, toujours cette réponse-là, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Y en a-tu certains? Moi, ça m'est arrivé très souvent. Qui c'est déjà arrivé? On est une petite minorité, c'est pas... Ah, y en a un autre là. Le danger de limiter l'humanité de Jésus-Christ, un des dangers, puis si vous avez d'autres idées, levez la main, puis là, je vais vous faire intervenir. Un des dangers de limiter l'humanité de Jésus-Christ, c'est vraiment de séparer Jésus-Christ du reste d'entre nous, d'une manière malsaine. Jésus-Christ devient plus un homme comme nous qui a dû faire face à la souffrance, aux tentations, aux limites humaines, à tout ce que nous, en tant qu'êtres humains, on vit sur cette terre, ou est-ce que ça va pas si bien que ça? Eh bien, là, on a l'impression que Jésus était un petit peu au-dessus de tout le monde. T'sais, il marchait sur un nuage, puis rien l'atteignait. Fait que quand Jésus était parmi les gens ailleurs, il était pas vraiment touché par les choses. T'sais, il marchait, puis... Tu sais, là, il y avait quelqu'un qui lançait une question. C'est comme, ah, homme de peu de foi. Puis là, il est un peu condescendant. Est-ce que vous avez des fois l'impression que Jésus-Christ est pas vraiment au même pied que vous? J'ai-tu vu une main levée? Okay. Est-ce que des fois, vous avez l'impression que Jésus-Christ est pas au même plan que vous? Est-ce qu'il y en a, ça vous est déjà arrivé, vous avez l'impression? Est-ce que Jésus-Christ peut vraiment comprendre ce que je vis présentement? tout, que ce soit la souffrance, que ce soit la difficulté, que ce soit même toute la pauvreté. Si on regarde, quel genre d'homme était Jésus? Là, on va parler de Jésus pleinement homme. Quel genre d'homme c'était? C'était quoi sa situation de vie? Y en a-tu qui la connaissent? Il était fils de quoi, premièrement? Charpentier. Est-ce que vous pensez que charpentier, c'était la profession la plus lucrative de l'époque? Non? Pourquoi? On fait des tables, on vend du bois, on manie des affaires, on fait de la charpente. Effectivement. Faiseur de tente, il y en a un autre. Fait que Jésus-Christ vivait pas dans une maison hautement décorée, tout ça. Jésus a vécu vraiment la pauvreté. Y en a-tu ici qui sont déjà allés à Bouffe pour tous ici? Qui ont déjà un peu servi? Peut-être que Jésus aurait même pu aller à Bouffe pour tous. Aurait pu vraiment se présenter et dire, ben cette semaine, on n'a pas de nourriture, fait qu'on a besoin de votre aide. T'sais. Fait que Jésus était un homme qui avait beaucoup de besoins. Est-ce que vous avez vu Jésus assoiffé un moment donné dans les Écritures? Oui, il était assoiffé au puits dans Jean 4. Il s'est retrouvé assoiffé puis il a juste même demandé à quelqu'un, hey, « Peux-tu me donner à boire? » Il était peut-être tellement assoiffé qu'il n'y arrivait même pas lui-même ou il n'avait juste pas le seau pour le faire. Fait qu'il avait besoin des gens. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus angoissé? Gethsémané, Jésus était angoissé. Qui d'entre vous a déjà vécu l'angoisse, la faim, la soif, la pauvreté de manquer des choses, de pas savoir qu'est-ce que demain, comment ça va se passer? Fait, quand on diminue l'humanité de Jésus, on a l'impression qu'il vivait pas vraiment les mêmes choses que nous. Il était vraiment sur un autre plan. Et ça, c'est très dangereux pour notre foi. Parce que Hébreux 1, si je me trompe pas, finit sur cette note-là que par la grâce de Dieu, Jésus a vécu la mort comme tout homme. Alors, il est devenu un grand prêtre qui comprend nos besoins, comprend notre misère. Et c'est de ça qu'on a besoin. On n'avait pas besoin d'un grand prêtre qui était juste au-dessus de nous tous et qui ne savait pas qu'est-ce qu'on vivait. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je vais vous poser la question à l'envers. C'est quoi le danger de limiter la divinité de Jésus-Christ et de faire de Jésus plus un homme que Dieu, selon vous? Avez-vous une idée? C'est quoi le danger de limiter la divinité de Jésus et de faire de Jésus plus un homme que Dieu? Est-ce que vous connaissez des gens qui croient que Jésus-Christ, c'est pas vraiment Dieu, c'est simplement un enseignant, un homme qui est venu enseigner des belles choses? Témoin de Jéhovah, ben, il pense que c'est un plus petit Dieu. Fait que c'est pas si pire. C'est un ange qui est devenu le Fils de Dieu. Est-ce que vous avez des amis? Moi, la plupart des gens que je connaisse de ma génération croient tous que Jésus-Christ était un bon enseignant, quelqu'un qui a enseigné des bonnes choses, une bonne morale. Mais Dieu, non. Dans le livre, vous avez un exemple pour ceux qui ont lu le chapitre 5 vers la fin, dans la quatrième section. L'auteur donne un exemple avec la doctrine de la kénose. Qu'un homme a essayé d'élucider certains mystères de Jésus, comme par exemple, comment est-ce que Jésus peut ne pas connaître la date de son propre retour? Comment est-ce que Jésus peut parfois sembler surpris? Comment est-ce que Jésus pose l'air de poser des questions? Fait que lui, il résout ce problème-là de cette manière-là. Il dit, quand Jésus a pris l'humanité, il a laissé de côté ses attributs divins. Donc, pour être vraiment pleinement un homme, parce que là, tu ne peux pas tout savoir et ne pas savoir en même temps. Ça n'a pas de logique. Donc, cet homme-là a dit probablement que Jésus s'est vidé de ses attributs. Il ne reste plus rien. C'est quoi le danger de faire de Jésus plus un homme que Dieu? Eh bien, si Jésus est plus un homme que Dieu, pourquoi est-ce que je devrais suivre cet homme-là? Pourquoi est-ce que je devrais me fier sur son sacrifice qu'il a payé pour mes péchés? Pourquoi est-ce qu'il ne deviendrait pas simplement juste un martyr? Quelqu'un qui avait des bonnes choses à nous enseigner. Fait que dans ce qu'il a dit, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, parce qu'il a quand même dit des choses extrêmes. Quand un homme dit, celui qui veut me suivre doit haïr son père, sa mère, sa femme, ses amis et même sa propre vie, c'est un petit peu extrême. Là. T'sais, je ne suis pas sûr que je suis prêt à aller jusque-là. Ou bien si Jésus a dit que celui qui est mon disciple doit tout abandonner pour me suivre, que celui qui veut être mon disciple doit... c'était quoi la troisième? Ah oui, il doit se renier lui-même, porter sa croix et le suivre. Et on, dans le contexte, porter sa croix, ça voulait dire, vous allez vivre comme des gens qui sont, qui vont être crucifiés, qui vont être mis à mort. Donc, limiter la divinité de Jésus, c'est d'en faire un enseignant qui aurait probablement pu dire des choses sur le coup d'un zèle religieux quelconque. Fait que c'est pas vraiment important ce qu'il a dit. C'est pas important de vraiment comprendre ce qu'il nous a dit. Parce que de toute façon, que ce qu'il nous a dit, ben, c'est à sujet à interprétation. C'est à sujet à pas comprendre. Fait que c'est pas tant qu'à faire. Je pourrais bien lire Bouddha, qui est probablement beaucoup plus simple, beaucoup plus zen, beaucoup plus... Oh, faut pas faire ça. Désolé. Fait que ça, c'est des conséquences de limiter. Mais lorsqu'on croit que Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme, c'est là qu'on a une pleine révélation de qui est Dieu. Parce que notre but, là, en lisant ce livre-là, notre but en prenant ce cours, en tout cas, j'espère que c'est votre but, c'est pas juste d'apprendre des informations sur Dieu, mais c'est de connaître Dieu. C'est d'apprendre à connaître intimement qui ce Dieu est. Et donc, l'auteur affirme que le texte clé du Nouveau Testament qui nous montre qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'incarnation, c'est 2 Corinthiens 8, 9, qu'on va lire ici. « Car vous connaissez la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Selon vous, l'incarnation de Jésus-Christ, le fait que Jésus, la grâce du Seigneur Jésus qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis, en quoi cette action de Jésus-Christ, cette incarnation de se mettre pauvre, nous révèle qui Dieu est? Qu'est-ce que ça révèle de Dieu, cette action-là de Jésus-Christ? Pardon? Son amour, premièrement, parce qu'il s'est abaissé à devenir un homme. Merci. Y a-t-il autre chose? Son humilité. Son humilité. Son amour, son humilité. Sauf que l'humilité, quand on regarde l'incarnation, c'est probablement une des premières choses qui nous frappe, c'était l'humilité de Jésus-Christ. On a l'impression vraiment, là, aïe aïe, il faut être humble, de lâcher tout le confort qu'il avait, toute la gloire qu'il avait constante pour se retrouver au milieu de gens incrédules qui vont le crucifier. Et ma question pour vous, c'est, est-ce que vous pensez que Jésus, Dieu, a été simplement humble lors de son incarnation? Souvent, j'ai l'impression que quand j'entends parler de l'humilité de Dieu, c'est il a commencé à être humble quand Jésus-Christ est venu. Mais est-ce que Dieu ne l'a pas toujours été? Et si oui, j'aimerais ça que vous soyez... Est-ce que vous êtes capable de me donner des exemples de comment est-ce que Dieu a été humble dans l'Ancien Testament? Parce que c'est Dieu qu'on cherche à connaître. Fait que comment est-ce que Dieu s'est manifesté comme étant humble dans l'Ancien Testament, selon vous? Oui? Mm-hmm. Mm-hmm. C'est un. Oui. Fait que Dieu dit dans Deutéronome qu'il n'a pas choisi le peuple d'Israël parce que c'était le plus grand, le plus fort, le plus beau, portait des habits en or. Il s'est dit, hey, eux autres, ils vont bien me représenter, eux autres. Non, il a dit, je vous ai pris parce que vous étiez les plus petits, les plus méprisables. Même quand Dieu a pris Israël, c'était même pas un peuple, c'était une gang d'esclaves. Alors, Dieu montre son humilité en prenant de ce qui est plus petit et plus faible. Y a-t-il d'autres choses que vous voyez dans l'Ancien Testament qui montrent que Dieu s'est déjà manifesté comme un Dieu humble? Oui. Abraham? Mm-hmm. C'est vrai. Melchisédek, qui était quand même un représentant de qui Christ était, s'est manifesté comme humble. Il a été bénir Abraham. Et pourtant, Abraham l'a même reconnu comme étant le plus élevé. Mais il s'était quand même humilié à s'avancer à Abraham puis à le bénir. Fait que Melchisédek, c'était quand même, je crois que c'était vraiment un homme, un prêtre. Mais au travers de ça, on voit quand même l'humilité de Christ qui vient bénir les plus petits pour que nous, on puisse aussi le bénir en retour. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. OK, oui. Fait que souvent, on voit, je répétais pour ceux qui s'est enregistré, mais le choix de David comme roi, c'était humble de la part de Dieu. Alors, on voit que dans le choix de Dieu des personnes qu'il fait, on voit que ce n'est pas les gens les plus grands de ce monde. Et ça, ça nous en dit beaucoup sur nous-mêmes. Si on se regarde nous-mêmes, est-ce que Dieu a choisi les plus grands, les plus forts, les plus intelligents? Puis moi, si je parle juste de moi, je peux vous dire qu'à la date, c'est pas, il n'a pas choisi les plus grands, les plus forts, les plus intelligents. Mais il nous a choisis. Si vous avez connu Jésus-Christ. Et ça, c'est une preuve de son humilité. Peut-être deux autres que je veux juste dire rapidement, mais l'humilité de Dieu se manifeste par le fait qu'il nous a parlé. Et il nous a parlé d'une manière à ce que l'on soit compris. Est-ce que ça, avez-vous déjà rencontré ça, une personne là qui vous parle, puis vous parle en termes techniques, tellement là que vous comprenez absolument rien de qu'est-ce qu'il vous dit? Ouais, moi j'ai swingé la chose avec la style Schwarzenegger, puis c'est comme ça que ça sonne dans votre tête. Vous avez l'impression, mais de quoi il parle? Je comprends pas. T'as l'impression qu'il est comme dans un autre monde. Il te parle de son champ, que ce soit un médecin là qui te parle. Là, tu lui demandes qu'est-ce que j'ai, docteur? Ah, mais l'endropyphose est élongée. Quoi? T'sais, pouvez-vous me dire ça? Fait que Dieu nous a parlé. Il a voulu parler à nous. Et même des fois, il utilise ce qu'on appelle des anthropomorphismes. C'est-à-dire, il parle en des manières humaines. Fait que quand il dit, genre, « Mes yeux t'ont vu », certaines religions vont vous traduire comme « Ah, Dieu a des yeux! » C'est la preuve, c'est ici. Non, non, il fait juste nous expliquer d'une manière à ce que nous, on puisse comprendre ce que Dieu fait. Fait que déjà que Dieu ait parlé à l'être humain, c'est une preuve de son humilité. Et je trouve qu'une autre belle preuve de son humilité, c'est là où il a voulu résider parmi le peuple d'Israël dans le lieu très saint. Une des difficultés que le peuple d'Israël avait avec leur religion, c'est que souvent les religions païennes, c'est un dieu qui est mis de l'avant, puis c'est extraordinaire. Fait qu'on fait la statue en or, on lui fait un temple extraordinaire, on élève ça, faut que ça touche même le ciel. Fait que ça, c'est notre dieu. Puis là, si t'avais été dans cette époque-là, t'aurais dit, puis vous autres, votre Dieu Israël, c'est quoi? Ben, il habite où? C'est où son temple? Ben, c'est ça. C'est une tente. Une petite tente. Ah ouais? Mais je vois pas d'or. Je vois pas. Il est où l'or, tout ça? Ben, l'or est à l'intérieur, dans le lieu très saint. Puis c'est là que Dieu, il manifeste sa présence. OK, mais on peut-tu aller voir? Non, 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 faut pas que tu y ailles, parce que si tu y vas, tu vas mourir. OK, mais d'abord, c'est quoi, vous faites rien avec cette salle-là? Ben oui, il y en a un qui va une fois par année, puis on attache une corde à son pied, parce que s'il meurt, ben on le tire, pour être sûr. Fait le Dieu d'Israël était un Dieu très humble, très caché. Il voulait pas se manifester comme juste avec des trompettes et des tambours. Il se manifestait comme étant caché. Sa gloire était cachée. Seulement ceux qui voulaient vraiment le chercher pouvait avoir un aperçu de sa gloire. Et ça, c'est son humilité. L'incarnation de Jésus-Christ manifeste cette humilité. Jésus-Christ, à première vue, c'est pas quelqu'un qui semble glorieux. Mais pourtant, quand on apprend à le connaître, les gens qui ont appris à connaître Jésus-Christ et qui ont cru en lui, ont vu sa gloire. C'est ça que Jean dit. Et nous avons vu sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ça va? Fait que là, on va passer au chapitre 6. Il sera mon témoin. Juste regarder. On a parlé de l'incarnation du Fils. Alors là, si j'imagine que vous devez avoir passé le Père, le Fils. Maintenant, il nous reste la troisième personne de la Trinité à discuter. Et qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu au travers de la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit? Et qui est probablement la personne la plus mystérieuse des trois pour la plupart d'entre nous. On connaît beaucoup le Père. Quand on parle de Jean 3:16, c'est le Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Alors, le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est l'amour du Père qui a envoyé le Fils. C'est son élection. C'est le Père qui nous a choisis de toute éternité. Fait que c'est son choix qui fait que l'on est choisi dans Jésus-Christ. Le Fils, ben quand on connaît pas le Fils, on n'a rien. Connaître Jésus-Christ, c'est souvent la personne de la Trinité qu'on connaît le plus. Fait qu'on sait qu'il est venu sur la terre, il a guéri les malades, il a enseigné, il est mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité. Alors, le Père et le Fils, on les connaît assez bien, mais le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est si grave que ça de connaître peu de choses du Saint-Esprit? Est-ce que si on connaît déjà pas mal Jésus-Christ, on connaît quand même bien le Père, est-ce que c'est pas suffisant? Si la parole affirme que le seul vrai Dieu est un Dieu trinitaire, donc pour le connaître pleinement, il faut comprendre ce qu'implique le fait que Dieu soit trinitaire. Donc, ce n'est pas simplement une doctrine accessoire. Si je vous parle de moi-même et que je parle, admettons, de mes insécurités, puis là, pour me connaître, vous dites, oui, je suis prêt à te connaître, mais parle-moi pas de ça. Ça m'intéresse pas. Mettons ça de côté, là. Je veux apprendre à connaître toi sans toutes tes peurs, tes insécurités. Mais vous voulez pas vraiment apprendre à me connaître parce que malheureusement, mes peurs, mes insécurités, mes joies, mes rêves, tout fait partie de moi. Donc, le Saint-Esprit, qui est Dieu, troisième personne de Dieu, nous devons apprendre à le connaître si nous voulons apprendre à connaître pleinement Dieu. L'auteur nous dit à la page 68, on se demande ce que dirait l'apôtre Jean de cette façon de faire. Lui pour qui la doctrine de la Trinité constitue un élément essentiel de l'Évangile. L'auteur trouve que, peut-être que dans les églises aux États-Unis, c'est peut-être particulièrement marqué, mais il dit que beaucoup de personnes connaissent peu de choses sur le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est votre cas. Combien d'entre vous vous diriez, le Saint-Esprit, je sais c'est qui, mais je connais peu de choses sur le Saint-Esprit. Y en a-tu ici qui, monsieur ici, fait que moins de choses sur le Saint-Esprit? Y en a-tu qui aimeraient en apprendre à connaître plus, même s'ils connaissent bien? OK, c'est bon. Juste être sûr, là. Selon vous, comment on explique ce phénomène-là que le Saint-Esprit est peu connu, selon vous? Oui. Le père, quand on pense à un père, on pense comme dans une personne, un fils. Ben, il... Oui, c'est ça. On a de la misère à comprendre ce mot-là. Ben, pas de la misère à comprendre, mais on a de la misère à l'imaginer, à le rendre réel. Même en anglais, ils appellent pas nécessairement tout le temps le Holy Spirit, ils l'appellent le Holy Ghost. Puis, des fois, je me demande, c'est pas l'impression qu'on a, tu sais, Saint-Esprit rentre en moi, puis, tout d'un coup, c'est comme ça y est rentré, je le sens, il bouge mon être, là. Des fois, c'est comme Saint-Esprit, c'est. Qu'est-ce que c'est, Saint-Esprit? As-tu d'autres choses, peut-être, qui font qu'on connaisse peu le Saint-Esprit? Pardon? Fait que ça, c'est sûr que le Saint-Esprit, c'est Dieu en trois personnes. Oui, ça c'est clair qu'il est Dieu, on est tous d'accord. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on connaît peu de choses sur le Saint-Esprit? Oui. Oui, effectivement. Fait que, il habite profondément en nous. Et même, je ne sais pas pour la plupart d'entre vous, puis je viens à ceux qui ont levé les mains, j'ai vu les deux. On dirait, je ne sais pas pour vous, mais que le Saint-Esprit habite en moi. Moi, je n'ai pas souvent senti, genre, j'ai pas souvent comme, c'est comme, il habite en moi. Il est où, tu sais, exactement? J'ai l'impression que quand moi, je veux faire quelque chose, c'est moi qui le veux. Quand je veux... lire la Bible, me semble que c'est moi qui le veux. T'sais, on a l'impression, c'est vrai que nos sens, on est sans tourner vers un ascétisme, c'est-à-dire qu'on repousse les choses matérielles puis on veut rien avoir. C'est pas ça le but. Mais dire que c'est vrai qu'on est tellement sollicité par toutes sortes, on est une culture d'émotions qui fait que si on le sent pas, c'est comme ça a l'air moins réel pour nous. T'sais, souvent quand les gens on leur parle, on a l'impression que s'ils l'ont pas vécu, s'ils l'ont pas senti, ça devient comme moins réel pour eux autres. Sam? Ah, je suis désolé. Désolé. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé en même temps. Yes. Oui. C'est tellement subtil dans la vie de tous les jours, comme justement l'exemple que M. Maltais a donné de vouloir redonner le change ou pas. C'est tellement subtil, mais pourtant on le vit. Mais c'est vrai que c'est dur à imaginer. Il est comme pas corporel. Oui. Oui. Effectivement, c'est très bon comme réponse. Il parle des autres. Fait que la personne qui parle moins d'elle-même, qui parle tout le temps des autres, on dirait des fois elle est plus discrète. Moins là. Fait que le Saint-Esprit, quand on le voit parler, je pense que dans les actes, il parle comme deux fois, vraiment, où ça dit « le Saint-Esprit dit ». Mais sinon, il fallait que Jésus nous en parle, parce que sinon, inquiétez-vous pas, tu sais, le Saint-Esprit va venir. Mais même Jésus dit « il va te rendre témoignage de moi. Il va parler de moi ». Fait que le Saint-Esprit, c'est vraiment aussi un Dieu humble, qui ne parle pas beaucoup de lui-même, qui glorifie le Père et le Fils, et qui est peu corporel. Et je pense que c'est plusieurs bonnes raisons pour lesquelles on le connaît un petit peu moins, mais c'est quand même très important d'apprendre à le connaître. Peut-être une autre raison aussi, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu peut-être les excès du Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit, on s'y intéresse moins. Et ça, c'est tout simplement une catégorie de personnes. Mais je connais des personnes qui se sont moins intéressées au Saint-Esprit parce qu'ils ont connu des gens qui en parlaient de manière excessive, qui vivaient des expériences selon le Saint-Esprit, entre guillemets, de manière excessive. Alors, toutes sortes de choses qui ne sont jamais retrouvées dans les Écritures, des gens qui crient comme des animaux, des gens qui ont des manifestations de l'Esprit bizarres. Certaines personnes ont été tellement écœurées de ces choses-là qu'ils disent « Non, c'est la Bible. On regarde la Bible. Saint-Esprit, il l'a inspiré, c'est déjà bon. Fait que on va regarder la Bible. » Fait que certaines personnes ont déjà été écœurées du Saint-Esprit parce qu'ils savent plus trop quoi en faire. C'est comme, là, en premier, dans ma vie chrétienne, j'avais appris que le Saint-Esprit me donne plein de manifestations, puis là, je suis posé ressentir plein de choses, tout ça. Là, je m'en vais dans une autre assemblée, ils disent, ben non, le Saint-Esprit, il fait pas ça, il fait plus ça maintenant, c'était juste au début. Fait que là, il y en a qui sont toutes mélangées des fois par le Saint-Esprit, ils sont comme, c'est pas clair, est-ce qu'on peut vraiment le savoir, tu sais, puis il y en a des fois qui ont juste abandonné. Ça peut être une autre raison aussi parfois. Mais nous, on ne veut pas faire partie de ces gens-là qui ne veulent pas connaître le Saint-Esprit. En tout cas, je ne souhaite pas. On veut apprendre à connaître qui il est. On va parler de lui. On va tourner dans Jean 16, 7. Dans mon document, vous allez l'avoir. Si jamais il y en a qui n'ont pas des documents aussi, j'en ai ici parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés. Fait que s'il y en a qui veulent les avoir, on peut faire passer juste de ranger et être sûr que tout le monde en aille. Jean 16, 7. Ça, c'est une question intrigante que je veux prendre parce que je veux introduire le Saint-Esprit par ce verset-là. Jésus dit à ses apôtres, lors de la dernière nuit, juste avant qu'il est arrêté, il dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Combien d'entre vous, si vous aviez le choix, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, là, vous aimeriez mieux avoir Jésus qui est là, puis qui vous dise directement quoi faire. Puis là, ce serait beaucoup plus simple dans ma vie. Tu sais, me semble, là, hey, Jésus, what would Jesus do? Là, me semble, Jésus, si t'étais là, juste à côté de moi, là, ça serait tellement plus facile de savoir qu'est-ce que j'aurais à faire là, parce que ma situation est compliquée. Puis j'ai vraiment besoin de savoir ce que. Combien d'entre vous aimeriez ça que Jésus soit juste à côté de vous autres, là? Physiquement, je parle, là. Physiquement, là. À côté de vous autres, puis là, vous arrivez, c'est comme crème ou chocolat? Crème. Ah, merci Jésus. Fait que peut-être pas à ce point-là, là. Mais vous aimeriez ça, que Jésus-Christ soit présent. Et pourtant, Jésus, il dit, il vaut mieux que je parte. C'est mieux pour vous que je ne sois pas là et que le Saint-Esprit vienne. Donc, le rôle du Saint-Esprit est hautement important. Quand on regarde, on a l'impression, hey, Jésus, c'était là. Puis, non, Jésus, il dit, non, écoutez, faut que je m'en aille. C'est bon que je sois parti. J'aime mieux vous donner le Saint-Esprit. Pourquoi vous pensez? C'est quoi? Pourquoi est-ce que Jésus disait qu'il valait mieux qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne? Oui. Exactement. La régénération se produit juste par le Saint-Esprit. Fait que sans Saint-Esprit, est-ce qu'il aurait été en enfer? Leur péché aurait été quand même payé. Mais c'est plate de jamais pouvoir vivre la vie de Dieu à tous les jours sans le Saint-Esprit. C'est bon, oui. Pourquoi il fallait mieux? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'ai une théorie là-dessus, mais vu que c'est pas explicitement, j'aime mieux, on pourra en parler si tu veux, mais voici ma théorie là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir les deux? On peut pas avoir les deux parce que ce que le Saint-Esprit fait, mais dans le fond, j'avancerai tôt dans le cours, puis je veux pas répondre. OK, je vais revenir là-dessus, mais c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir Jésus à côté de nous autres et le Saint-Esprit? C'est une bonne question, mais on va y revenir plus tard. Mais c'est une très bonne question. Oui. Oui. Fait que déjà, c'est une bonne raison. Ça répond un petit peu à la question précédente. C'est Jésus est juste à une place à la fois. Oui, je m'en viens à toi après. Ce serait plate que... Bon, Jésus-Christ, j'ai une question. Ouais, dépêche-toi parce que j'ai 30 secondes. Il faut que je sois en Chine dans 2 heures. T'sais. Fait que ce serait plate d'avoir juste un Jésus à une place. Puis là, c'est comme, j'ai toujours occupé. Moi, je suis sûr, en tout cas, si on a des hommes de Dieu occupés, là, si on a des pasteurs occupés, Jésus, lui, ce serait le pasteur occupé, tu sais. Fait que c'est sûr que d'avoir le Saint-Esprit, ça a l'avantage que physiquement, il ne peut pas être partout. Le Saint-Esprit peut vivre en chacun de nous, chacun où est-ce qu'on est, dans les situations où est-ce qu'on est. Fait que ça, c'est un avantage intéressant. Oui. Puis, oui. Non. Absolument. Ça donne un exemple de réponse quand même, parce que dans son incarnation, Jésus est à une seule place. Mais il va avoir une réponse. Je vais donner une réponse plus tard dans le cours. Il va en avoir une. C'est... Fait qu'effectivement, juste avec tout ce que le Saint-Esprit fait, si on prend déjà pour acquis comme que Jésus devait partir, puis que là, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Ce qu'il a dit, c'est que si on prend pour acquis Jésus devait partir pour nous envoyer le Saint-Esprit, ben c'est sûr que c'est plus avantageux que ce soit le Saint-Esprit, ben, avec tout ce qu'il fait en nous, tout ce qu'il nous guide et il nous fait avancer, etc. C'est environ ça que tu disais là? Le fruit de l'esprit. Fait que pour lui, tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est avantageux que Jésus devait vu que Jésus nous dit qu'il devait partir. Il y avait une dernière main levée ici, dans ce coin-là. Ah, ben là. Là, t'es connecté sur le Saint-Esprit le matin? Yes. OK. On va revenir à la question de François plus tard. Je vais donner un élément de réponse. Je pense pas que j'ai toute la réponse, malheureusement, à cette question-là, mais c'est une question que moi aussi, je me suis posée souvent. Pourquoi pas les deux? Pourquoi Jésus te reste pas puis tu donnes pas le Saint-Esprit? Fait que... Dans le passage que James Parker nous donne, Jean 14, 16, qui est le Consolateur, lorsqu'il parle du Consolateur, que Jésus allait nous envoyer un autre Consolateur, dans le grec, il semble vouloir dire qu'il allait nous envoyer un semblable à lui. Jésus allait nous envoyer quelqu'un qui était comme lui, exactement comme lui. Donc, le Saint-Esprit qui demeure en nous, c'est comme si c'était Christ qui demeurait en nous. Et ça, ça veut dire que le rôle du Saint-Esprit est extrêmement important pour nos vies, parce que le ministère que Jésus faisait dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'il se promenait, il enseignait, guérissait des malades, ressuscitait des morts, c'est ce ministère-là que le Saint-Esprit fait en nous. Et il y a deux manières de pouvoir diviser. C'est une classification comme une autre, là, mais on peut comprendre le ministère du Saint-Esprit de deux manières. La première, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Puis la deuxième, c'est l'illumination du Saint-Esprit. Fait que c'est un ministère qui est plus historique, c'est un ministère qui est plus personnel du Saint-Esprit. L'inspiration, et je vais continuer à aller un peu plus vite parce que l'inspiration des Écritures, le Consolateur, Jean 14, 26, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. À la page 74 de son livre, l'auteur dit « L'Esprit rendait témoignage aux apôtres en leur révélant toute la vérité et en les inspirant afin qu'ils communiquent avec fidélité et exactitude. C'est ce qui permit la constitution des Évangiles et du Nouveau Testament, car que sans le Saint-Esprit, le monde n'aurait jamais possédé. » Ça, c'est... Oui. Non, pas exactement. C'est pas exactement ce que je veux dire. C'est, eux autres ont vécu les deux, tu veux dire? Oui, ben tu vas voir, c'est pas exactement ce que je veux dire par illumination, là. C'est que l'inspiration, puis ça, il y a une partie que tu dis, c'est vrai, l'inspiration était limitée à certaines personnes qui, par le Saint-Esprit, ont transmis avec fidélité exactement l'enseignement que Jésus-Christ voulait qu'ils transmettent. Alors, dès qu'on ouvre le Nouveau Testament, on n'a pas juste les paroles de Paul, de Pierre, de Jean, etc., tous les mondes qui ont écrit le Nouveau Testament, mais on a vraiment les paroles de Jésus, on a son enseignement. C'est pas juste les évangiles qui rappellent ce que Jésus-Christ a dit, mais Jésus-Christ a parlé au travers des apôtres pour écrire à des églises, parce que la majorité du Nouveau Testament, c'est des lettres, pour écrire à des églises exactement ce que Jésus voulait leur enseigner à eux. Fait que déjà dans l'inspiration, on a un exemple par le Saint-Esprit de vérités très pratiques qui ont été écrites à des églises dans des moments particuliers, dans des situations particulières qui servent à notre propre édification. Ça a été un des rôles très importants du Saint-Esprit parce que sans inspiration, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Et donc, le Nouveau Testament est simplement un livre comme un autre. Oui, hein? Eux autres, oui, c'est ça. L'Ancien Testament était inspiré, mais nous, on n'aurait pas le Nouveau Testament, on aurait l'Ancien Testament. Mais là, on a l'application concrète de ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de certaines églises, dans la vie de certains individus, après que Jésus-Christ soit venu. Ça a été un des ministères. Et l'inspiration a commencé, comme tu as dit, depuis le début. Dans l'Ancien Testament, l'inspiration du Saint-Esprit a commencé avec Moïse, qui a écrit la Genèse, Exode, et ainsi de suite, jusque dans l'Apocalypse. Et ça, c'est important. Et ça, je pense que... Bien, ça, c'est une des doctrines fondamentales. Si on ne croit pas à l'inspiration des Écritures, on part mal dans la vie chrétienne. On se nourrit de quoi? On se nourrit de la Bible, on se nourrit des enseignements de Krishna, de Bouddha, de tout le monde, de Mahomet. L'inspiration des Écritures, c'est ça qui nous dit « Voici ce que Dieu dit ». Et pour la plupart d'entre vous, c'est pas de connaissance de la Bible dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est du deuxième ministère que le Saint-Esprit fait, qui poursuit le ministère de Jésus, c'est ce que j'appelle l'illumination. Si vous tournez à la page 4. L'illumination. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. C'est pas la même chose que le concept religieux oriental mystique, là, que on parvient à un certain niveau, certain niveau, certain niveau, et puis là, tout d'un coup, on devient des illuminés. On devient des gens spirituels. C'est pas du tout ça. L'illumination, c'est la réalité. C'est quand on lit la parole. On veut que cette parole-là s'applique à notre vie aujourd'hui. On veut que cette parole-là s'applique dans notre situation concrète. Eh bien, le ministère du Saint-Esprit, ce que lui fait, c'est qu'il prend la parole de Dieu dans les pages et il l'applique concrètement dans nos vies. Ça, c'est le ministère de l'illumination. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire la parole de Dieu et de dire « ça, c'est pour moi ». Ça, j'ai l'impression que Dieu me parle particulièrement dans ces pages-là. Oui? C'est ça. Exactement. Oui. Dans Corinthiens, Paul dit que le Saint-Esprit illumine notre cœur de la même manière que quand Dieu a dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit illumine le cœur d'une personne pour qu'il comprenne les Écritures, mais pas juste qu'il les comprenne, mais qu'il la mette en pratique. Parce que le but, c'est pas juste de comprendre, d'avoir la bonne interprétation, parce que même un non-croyant peut avoir la bonne interprétation des Écritures, puis pourtant la rejeter. Mais ce qu'un non-croyant ne peut pas, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il ne peut pas accepter les choses de Dieu. Et c'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens, c'est qu'il dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit. » Il n'est pas capable de les accepter dans sa vie parce qu'il n'est pas illuminé par le Saint-Esprit. L'illumination se reflète vraiment dans ce que Jésus nous a enseigné, et c'est-à-dire dans Jean 15, 5. Jésus fait une déclaration absolument surprenante. En tout cas, moi, à chaque fois que je la lisais, au début de ma vie chrétienne, j'étais vraiment surpris à chaque fois qu'il disait, il disait, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et voici la déclaration surprenante, c'est que « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et pour moi, c'était comme, comment est-ce que Jésus peut dire que sans lui, on peut absolument rien faire si on ne demeure pas en lui et lui en nous? Parce qu'il y a une foule de choses, me semble, que je fais très bien. Je me souviens même qu'une année, je coachais un jeune garçon au secondaire, puis il se demandait, je comprends pas comment est-ce qu'il faut que je demande à Dieu de faire mes devoirs, parce que à date, je les fais très bien sans lui. Tu sais, j'ai pas besoin de Dieu pour faire mes devoirs, pour étudier mon examen. Je sais même pas quoi lui demander. Je lui demande-tu de passer? Si je lui demande de passer, c'est comme, ben là, je vais, de toute façon, je passe mon examen. Fait que pour lui, dans ce qu'il me partageait, c'était vraiment, il y a des choses que j'arrive à faire par moi-même. Puis même des fois, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de choses que même les non-chrétiens font mieux que nous autres. Oui. Peut-être. Ce serait une bonne alternative. Ce serait une bonne interprétation. Hein? Mais on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Oui. Oui. Donc, on voit à l'origine, c'est un petit peu la même chose que l'argent. On gagne notre argent, on prépare notre nourriture. On peut dire qu'à la base, tout vient de Dieu quand même, vu que Dieu a tout créé. Mais j'ai l'impression que Jésus va même plus loin que ça, lorsqu'il dit que c'est pas juste l'idée que ben les forces que moi j'utilise viennent de Dieu. Je pense que ça va même plus loin que ça. Parce qu'il dit vraiment qu'en sans moi, Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Même à un tel point que Jésus-Christ, il va dire à ses apôtres, dans les Actes des apôtres, au départ, il va leur dire, « Je ne veux pas que vous alliez évangéliser. » Là, t'es comme, voyons, pourquoi tu veux pas qu'on ait fait ça? Je ne veux pas que vous alliez évangéliser avant que vous ayez le Saint-Esprit. Vous allez pas, même si vous pourriez dire des belles affaires, des beaux discours, le plus beau, là, vous dépasseriez tous les orateurs que j'ai jamais eu. Jésus, il disait à ses apôtres avant, là, je m'en vais, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, restez à Jérusalem, sortez pas de là, faites pas de gaffe, partez pas sans le Saint-Esprit. Il y a une idée que sans le Saint-Esprit, il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Pourquoi? Parce que la deuxième partie du ministère du Saint-Esprit, et là je vais dire une phrase, je vais l'expliquer après, la deuxième partie du ministère du Saint-Esprit est d'appliquer à notre nouvelle nature ce que le Seigneur Jésus-Christ avait appliqué à notre condition humaine lors de sa venue. Je vais juste répéter pour ceux qui écoutent, mais juste que vous compreniez bien cette phrase-là, c'est très important. Pourquoi? Parce que la deuxième partie du ministère du Saint-Esprit est d'appliquer à notre nouvelle nature ce que le Seigneur Jésus-Christ avait appliqué à notre condition humaine lors de sa venue. Qu'est-ce que Jésus faisait sur la terre? Il ne faisait pas qu'enseigner. Jésus-Christ faisait des miracles, ça on le sait. Des fois, on se demande même pourquoi les miracles se font plus aujourd'hui autant que dans ce temps-là. Mais quel genre de miracle est-ce que Jésus faisait? Pouvez-vous me donner un exemple de miracle que Jésus a fait? Guérissait les malades. Fait que ceux que la maladie avait affaibli, il les restaurait en bonne santé. Y'a-tu autre chose? Ressuscitait des morts. Fait que ceux que la mort avait apporté, Dieu les ramenait à la vie. Enlevait les démons. Les démons qui se partaient, Jésus chassait les démons pour qu'ils ne soient plus tourmentés, ni même possédés parfois par le démon. Dévoilait les cœurs, dans quel sens? Ouais, ça c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit lui donnait. OK, ouais, on peut voir ça. Je parle plus de miracle vraiment sur la condition humaine. Marcher sur les eaux, c'est vrai, c'est par-dessus. Marcher. Oui, il a apaisé la tempête. Il a calmé les éléments. Il a maîtrisé même les éléments. Mais vous voyez, ce que Jésus faisait dans son ministère, où est-ce qu'il marchait, il restaurait. C'est ce que Jésus est en train de faire en vous. Et c'est pas que c'est fait une fois pour toutes. La première fois où est-ce que Jésus le fait par le Saint-Esprit, c'est lors de votre nouvelle naissance. Vous étiez mort et maintenant vous naissez à nouveau pour Dieu. Mais vous avez besoin qu'à tous les jours, le Saint-Esprit ouvre vos yeux pour voir qu'est-ce que Dieu veut. Il a besoin d'ouvrir vos oreilles parce que vous êtes sourds et vous avez besoin d'entendre ce que Dieu dit. Vous avez besoin de parler, mais vous êtes muet, vous savez pas quoi dire. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous montre quoi dire à tous les jours. Vous avez besoin de marcher pour Dieu, mais pourtant vous êtes boiteux, vous avez de la misère à marcher. Vous êtes malade, vous êtes faible. Vous êtes incapable de faire ce que Dieu vous demande. Le Saint-Esprit, quand il vous illumine, il vous donne la force de faire ce que Dieu vous demande. Et ça, c'est le ministère particulier de chacun d'entre vous du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus faisait sur la condition humaine, Jésus n'est pas venu améliorer la condition humaine. Ça, on appelle ça aujourd'hui, grossièrement, l'évangile de la prospérité. Jésus vient améliorer votre condition. Il vient vous rendre que vos relations vont mieux, que vous allez avoir une meilleure job, que vous allez avoir... Je dis pas que Jésus ne fait pas ça. Il peut donner toutes sortes de grâces. Mais c'est pas son but en vous sauvant. Il vous rend pas riche. Il vous rend pas nécessairement en santé. Certains d'entre vous être malades, certains d'entre vous avec de la misère avec vos finances, certains d'entre vous, vous vous battez même avec un aspect de votre caractère que vous diriez « si seulement j'avais plus ça ». Je serais tellement plus utile. Si seulement j'avais pas cet aspect-là dans ma vie, je serais vraiment plus utile. Et le Saint-Esprit, ce qu'il souhaite faire, c'est qu'il veut ouvrir vos yeux, ouvrir votre langue, ouvrir vos oreilles. Il veut vous rendre capable de faire ce à quoi Dieu vous a appelé. C'est ça l'illumination, c'est que il me jette de la lumière. Finalement, je voyais pas ce que Dieu fait, tu sais. Ma situation est terrible, tu sais, je suis en chicane dans mon couple puis je comprends pas. Soudainement le Saint-Esprit, je suis en train de lire la parole, je suis en train de méditer puis là soudainement Dieu ouvre mes yeux. Dieu a un but à ça. Dieu veut que je l'aime. Dieu veut que je prenne soin de cette personne-là. Vous venez d'avoir une illumination du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de se révéler à vous et veut appliquer dans votre nature. Parce que dans la nature humaine, ce qu'on souhaite, c'est tout le contraire de ce que Dieu veut. Et ça, c'est notre naturel. Même être religieux, ça fait partie de ce que la chair veut. Fait que, pensez pas que parce que vous avez des sentiments religieux que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment quand le Saint-Esprit applique sur votre nouvelle nature. Alors, des choses que vous pensiez jamais, normalement, vous vous mettez en colère. Puis, vous vous êtes mis en colère 99 fois. Puis là, c'est la centième. Puis là, vous êtes en train de supplier Dieu. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit vous redonne la force de maîtriser cette colère-là. Et c'est pas une force qui vient de vous, c'est une force qui vient du Saint-Esprit. Et ça, c'est le ministère que Jésus vient faire. C'est le ministère que l'on recherche toutes dans nos vies quotidiennes. Et si vous voyez pas ce que vous avez à changer, si vous avez pas l'impression que vous êtes si pire que ça, ben moi, ce que je prie pour vous, c'est que le Saint-Esprit illumine vos yeux et vous permette de vous voir tel que vous êtes. Parce que ce que Dieu veut, c'est que vous vous rendez compte de combien est-ce que sans lui, vous êtes mort. Puis là, c'est à ce moment-là que les paroles de Jésus prennent tout un sens. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qu'on nous a dit tantôt, quand on parlait de « Est-ce que je redonne le change ou pas? » C'est vrai que c'est juste une seconde, c'est vrai. Mais juste pas juste le désir de redonner le change, mais de dire « Hey, Seigneur, c'est ton argent. » Puis c'est pas le mien, je vais le rendre à qui de droit. Ça, là, c'est le Saint-Esprit qui vient d'ouvrir vos yeux. Oui. Amen. Oui. 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 C'est l'argent de Dieu. C'est quand vous disiez c'est pour plaire à Dieu, on a un passage dans les Écritures qui est fort, là, mais qui dit « Nul ne cherche Dieu, nul ne cherche à faire le bien, pas même un seul, nul n'est d'intelligent. » Puis là, t'es comme, ben là, il y a quand même des gens intelligents. Je connais des gens qui cherchent Dieu. Mais personne ne peut faire ces actions les plus simples sans le Saint-Esprit. Fait, le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, on peut absolument rien faire. Si on prend même l'exemple des devoirs, je reviens. Si on prend même l'exemple des devoirs, que Dieu nous ouvre les yeux pour se rendre compte, hey, finalement, là, cet examen-là, là, voici ce qu'il est dans toute une vie. Voici l'importance qu'il a dans toute une vie. Puis là, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, c'est comme, Seigneur, je te remets ça entre les mains. Puis là, le Saint-Esprit, puis là, tout d'un coup, faire l'examen devient quelque chose que vous ne pouviez faire sans Jésus. C'est simple de même. Tu sais, vous êtes en difficulté financière, puis là, tu dis, hey, le Saint-Esprit ouvre les yeux, il dit, hey, Dieu dit, je prends soin de toi, je ne t'abandonnerai jamais. Puis là, t'es là, là, c'est comme, OK. Ah, je comprends maintenant. Seigneur, je te fais confiance. Le Saint-Esprit vient d'illuminer. C'est pour ça que Jésus il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais pour la plupart d'entre nous, on est tous genre, hey, c'est impossible de s'inquiéter de rien. Moi, là, mon exercice quotidien, c'est pas de faire des push-ups, c'est de m'inquiéter. Mais la seule manière de pas s'inquiéter, c'est si le Saint-Esprit vient illuminer vos yeux puis rendre compte, aïe, aïe, c'est ça dans le plan de Dieu. C'est rien. Oui. Exactement. Oui. Exactement. Qui vit en nous. Puis ça, c'est bien que tu m'avances pour aller plus vers la fin, là. Mais Saint-Esprit, quand tout le monde prend sa place, le Saint-Esprit, non seulement il vous redonne la vue, mais il vous équipe aussi, il vous donne des dons. Et quand l'Église entière et là, à sa place, quand les pieds sont là pour marcher, quand les mains sont là pour prendre dans leurs bras, quand les cœurs sont ouverts, quand la bouche parle, quand les oreilles écoutent, quand chacun d'entre vous, vous venez avec vos dons, c'est là que l'Église vit une unité incroyable. Parce que la vraie communion dans l'esprit, c'est quand chacun vient pallier à ce que l'autre n'a pas par le Saint-Esprit. Vous avez le cœur ouvert de miséricorde et l'autre est peut-être moins habitué à exercer la miséricorde, juge plus facilement. Mais là, vous êtes là, viens avec moi, on va exercer la miséricorde ensemble. Tu sais pas trop quoi dire à cette personne-là, t'es pas très bon pour expliquer les concepts bibliques. Viens avec moi, moi je vais le faire avec toi. L'unité de l'Église par l'Esprit, c'est ça. C'est cette unité où est-ce que chacun prend sa place. C'est pour ça que Paul y dit, c'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit » et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il vient de dire la même chose. C'est pas qu'on n'est pas capable de verbalement dire « Jésus est Seigneur », puis moi, j'ai pas le Saint-Esprit, ah, je suis capable. Mais c'est personne n'est capable de l'affirmer. C'est pour ça, et Dieu vous a fait, par le Saint-Esprit, vous a donné des dons particuliers. Et c'est à ce moment-là que connaître Dieu devient le plus pratique, puisque c'est dans la connaissance constante de ce que le Saint-Esprit a inspiré dans les Écritures et la recherche constante de l'illumination du Saint-Esprit dans vos vies qu'on va apprendre à connaître Dieu. Et ça, c'est quotidien. C'est pas qu'un jour, là, aïe, aïe, j'ai les yeux ouverts, je suis correct pour le reste de ma vie. C'est à chaque jour, vous devez rechercher dans la parole de Dieu à dire « Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui, j'en ai besoin parce que sinon, sans toi, je ne peux rien faire. » Et c'est la même chose quand vous parlez à des non-chrétiens, je finis avec ça rapidement. Quand vous parlez à un non-chrétien là, et que vous dites les paroles de Dieu et que la personne n'est pas convertie malgré votre tout ce que vous lui avez dit qui est logique, que c'est clair, tout ça, mais après ça, c'est le Saint-Esprit qui fait les résultats. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pourriez pas convertir des gens. Il n'y a personne qui peut se convertir sans le Saint-Esprit. C'est la même chose avec vous-même. Essayez pas de changer par vous-même ce que vous êtes. Recherchez Dieu. Cherchez dans les Écritures. Recherchez l'illumination du Saint-Esprit. Et là, à son temps, Dieu va ouvrir vos yeux. Attendez que le Saint-Esprit vienne ouvrir vos yeux. De la même chose, si vous avez des frères, des sœurs non-chrétiens et que vous leur parlez, priez que le Saint-Esprit leur ouvre les yeux. Et c'est là où ce que ça va faire. C'est là où est-ce qu'on va devenir une église puissante par le Saint-Esprit. Fait que je vais juste prier, puis après, on va arrêter cela. Seigneur Jésus, c'est vraiment, sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien faire. Et ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu puisses ouvrir nos oreilles ce matin, Seigneur, pour l'enseignement qu'on va recevoir. Ouvre nos bouches pour qu'on puisse te louer de tout notre cœur comme toi tu le désires. Seigneur, rends-nous non plus boiteux, mais fais qu'on marche pour qu'on puisse se servir les uns les autres. Ouvre notre cœur et rends-nous la vie pour qu'on ait un cœur qui aime les gens que tu nous as donnés, Seigneur. Et c'est en ton nom que je te prie, Seigneur Jésus. Amen.